Décryptage, Juliette Rangeval.
Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes à Erevan ce soir en compagnie d'Angélique Kidjo. On ne vous présente plus, bonsoir.
Bonsoir.
Et en compagnie de Sevana Tchakerian du collectif Meds Bazar. Bonsoir.
Bonsoir.
Erevan qui accueille à partir de demain jeudi le sommet international de la francophonie. Donc, ce sont des écrivains qui ont commencé ensemble à faire cet espace francophone il y a maintenant beaucoup d'années pour pouvoir transmettre des idées aussi, pour pouvoir montrer qu'on était capable de vivre ensemble, qu'on était capable de réaliser quelque chose ensemble. Angélique Kidjo, on va vous faire écouter une voix, on va vous la faire écouter aussi, Sevana. C'est la voix de Charles Aznavour et j'aimerais que vous nous disiez ce que vous en pensez.
Le pays avait besoin de quelqu'un, avait besoin d'une voix, mais d'une force. J'avais la force et j'avais la voix. Je pouvais rassembler autour de moi ce que j'ai fait avec mes amis les chanteurs, parce qu'on a fait un disque qui a fait un énorme succès et qui a rapporté beaucoup d'argent pour mes œuvres là-bas. Et puis voilà.
Et puis voilà, quand on lui demandait de quoi l'Arménie avait besoin, c'était une voix, une force. Vous, Angélique Kidjo, je crois que la première chanson que vous avez écrite quand vous étiez enfant, c'était une chanson contre l'esclavage. Vous vous souvenez de cette chanson que vous aviez écrite, de ce que votre père vous avait dit à ce moment-là?
Moi, je me souviens de beaucoup de choses. Donc, pour moi, le vivre ensemble, ça fait partie de mon éducation. J'ai grandi dedans, entre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, mes grands-mères. Le vivre ensemble a toujours été un exemple dans lequel j'ai vécu à la maison. Hein, c'est pas seulement des paroles. Donc, pour moi, venant de ce milieu-là, le vivre ensemble, pour moi, je l'amène partout. Parce que quand on est artiste, qu'est-ce qu'on est, on est obligé de faire? On n'est pas obligé. C'est notre plaisir, c'est de faire plaisir au public, mais en même temps, de les éduquer et de créer des ponts entre les cultures. Moi, c'est toujours ce que j'ai fait. Et pour moi, il n'y a pas de limite à l'humanité. Il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de forme. L'être humain, c'est un être humain. Nous venons tous d'une famille humaine. Et dans cette famille humaine, il y a des diversités. Et ces diversités-là, au lieu de les voir comme des menaces, moi, je les vois comme des atouts dans lesquels je vais puiser pour ma musique. Et faut qu'on continue. C'est ce qu'il dit Charles Aznavour, cette force, il faut qu'on l'ait. Cette voix, on l'a tous dans de différentes façons. Ça, la voix de Charles est une des multiples voix qui forment une voix. Et que nous, les artistes, on a le devoir de donner l'exemple de vivre ensemble. Parce que politiquement, on ne le voit pas. Dans les sociétés civiles, on ne le voit pas. C'est nous, par notre travail, que nous allons commencer à amener les gens à réfléchir à se vivre ensemble, chez eux et en dehors de chez eux.
Et vous, Sevana, vous le faites très concrètement, ce vivre ensemble avec votre collectif. Les musiciens qui le composent, ils viennent d'où?
Alors, c'est un collectif composé de musiciens arméniens, turc et français, qui est basé à Paris. Et justement, ça nous a créé aussi des problèmes d'avoir arméniens et turcs sur la scène, en chantant en arménien, en chantant en turc, vu qu'il y a un passé, il y a eu le génocide et tout ça. Beaucoup de personnes nous reprochent justement de se rapprocher, mais nous, on a eu des menaces, des concerts annulés par des pressions communautaires. Mais bon, nous, on fait de la musique. Comme disait Angélique, moi, je regarde pas la personne en face qui joue de la clarinette avec moi. Forcément, ça va être une personne avec qui je vais partager les mêmes principes, bien sûr. Mais surtout, c'est la musique qu'on fait ensemble sur scène, c'est la joie, c'est l'envie de partager notre amour, notre énergie avec le public et entre nous sur scène.
Vous participez. Oui, pardon.
Je vais rebondir à ce qu'elle dit, parce que moi j'ai fait partie du festival La Notte della Taranta en Italie avec Noah et une chanteuse palestinienne. Et moi, ce que je refuse, si les gens aiment la musique, de ne pas instrumentaliser la musique. La musique doit être au-dessus de tout. Toute forme d'art doit être au-dessus de toutes les divisions. Et que les gens qui ont la haine en eux n'ont qu'à gérer leur haine. Ils n'ont qu'à nous laisser, nous les musiciens, faire la musique qu'on a envie de faire. Et si l'histoire, on ne peut pas en parler, si on ne peut pas s'asseoir autour d'une table et régler les problèmes qui ont été posés avant que nous arrivions ici et qu'on doit encore être des victimes de cette histoire qu'on n'a pas créée, je crois qu'il y a un problème. Les gens doivent régler leurs problèmes. Il est absolument indispensable.
Est-ce que la musique, ça permet justement de régler ces problèmes? Est-ce que quand on joue ensemble...
Il faut déranger. Il faut le faire, mm-hmm. parce que les collectifs comme le collectif de
Sevana,
c'est important. C'est important de faire ça. Moi, je le fais tout le temps. Depuis que je suis gamine, ça a toujours été pour moi. Le déclencheur a été justement d'apprendre l'esclavage, l'histoire de l'esclavage. Parce que dans ma maison, mon père et ma mère disaient toujours, un être humain n'est pas une question de couleur. Vous ne pouvez pas revenir ici en me disant que vous avez échoué à cause de votre couleur de peau. Je n'accepte pas ça comme argument. Ce n'est pas valable pour moi. Et du jour au lendemain, je me retrouve en face de cette histoire. Et qui me fait me rendre compte que ma couleur de peau peut être un danger pour moi ou que j'aille dans le monde. Et c'est ça qui a été le déclencheur chez moi. Et ça, je refuse. Je refuse trop systématiquement le droit à qui que ce soit de décider de la vie de l'autre. Vis ta vie, sois heureux dans ta vie et laisse l'autre vivre sa vie. C'est ma philosophie de vie.
Vous saviez que votre nom avait circulé pour le poste de secrétaire général de la francophonie ?
Ah bon ?
Oui. Je l'ai lu dans la presse, forcément.
Je ne peux pas laisser mon micro, moi. Mon micro, la francophonie, la politique, tout ce qu'on veut, c'est au micro que je règle mes comptes, je chante.
Vous chantez seulement. C'est bien. C'est on va écouter, parce que vous parliez justement de l'esclavage, vous parliez, Sevana, de faire cohabiter plusieurs identités ensemble. On va écouter un extrait du spectacle de Pascal Légitimus. C'est un spectacle qui s'appelle Alone Man Show et où il parle de sa double origine.
Chaque peuple a souffert dans son cœur, dans sa chair. Chaque peuple a eu son lot de génocide. Un peu plus d'1,3 million d'Arméniens qui ont été décimés. Et puis du côté antillais, nous avons le génocide africain avec la déportation et la mort de plus de 350 millions de personnes. Moi, j'étais plongé là-dedans. Dans ma jeunesse, j'entendais souvent des lamentations, plus du côté arménien parce que c'était un peu plus frais. Moi, ma grand-mère, elle gémissait tout le temps, elle me racontait des histoires sordides. Alors, je parlais un peu l'arménien, je le comprenais. Et du côté antillais, c'était un peu plus ludique. Les antillais, pour s'échapper du passé, étaient plus dans... la famille, on va s'amuser, on va exulter, tout ça. Donc moi, j'étais ballotté entre ces deux structures, on va dire, affectives. Je suis vraiment au milieu. Arménien dans la vie, antillais sur scène.
Arménien dans la vie, antillais sur scène. Vous saviez, Angélique Kidjo, qu'il avait cette double origine, Pascal Légitimus ?
Non, je ne savais pas. Et c'est bien de l'apprendre. Moi, je viens d'une double nationalité aussi. Et du côté de ma mère, je suis Yoruba, et puis du côté de mon père, je suis Fon. Mais tout un chacun de nous sommes métissés. Mm-hmm. À partir du moment où l'homme, la présence de l'homme date de plus de 3 milliards ou de 30 milliards d'années, quand on est arrivé ici, sur cette terre, il y a eu beaucoup de les Davidiens, les Homo sapiens, c'est un métissage, en fait. Et c'est pour ça que je dis toujours que je n'arrive jamais à trouver une explication valable pour le racisme. Parce que à partir du moment où nous réclamons d'être des Homo sapiens, nous sommes tous africains à ce moment-là. Donc, quand on instrumentalise aussi et qu'on fait des différences d'échelle sur les douleurs par lesquelles les gens sont passés, c'est dangereux pour la vérité historique, c'est dangereux pour la réconciliation, c'est dangereux pour tout. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe parce que les douleurs ne partent pas. Quand on met une chape de plomb sur une douleur qu'on ne parle pas, moi je dis toujours, la meilleure façon d'avancer dans la vie, c'est que si on abcès, il faut le percer. Si on ne le perce pas, il va partout, il gangrène tout. Et depuis le début, le crime originel des pays riches, c'est l'esclavage. On n'en parle jamais parce qu'on continue d'une certaine façon cet esclavage économiquement et de toutes les façons possibles. Au jour d'aujourd'hui, ça permet quoi ? Ça permet que des grands groupes utilisent la rhétorique de l'esclavage pour faire leur pub. Quand on demande à Coca-Cola, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas des bouteilles de Coca-Cola en verre comme ils le faisaient avant pour les consignes, et pourquoi ils font les bouteilles en plastique, ils disent, ce n'est pas notre faute si le plastique pollue la planète, c'est les consommateurs, c'est leur faute. C'est eux qui achètent ce Coca-Cola-là, qui ne recyclent pas leurs bouteilles. Alors, il y a un problème. S'il n'y a pas de responsabilité prise de chaque côté, pour qu'on puisse avancer et construire une société, en fait, où chaque personne ne se sent pas en danger, ne se sent pas pointée du doigt et qui peut vivre pleinement sa vie, on va dans le mur. Et ce mur, je n'ai pas envie d'y aller. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la musique doit être au-dessus du tout. La musique doit nous permettre de ramener tout au niveau humain, de pouvoir nous voir en face, de pouvoir chanter, de pouvoir danser, de pouvoir faire plein de choses, de pouvoir célébrer l'être humain.
Et vous, Sevana, vous avez l'impression... L'Arménie, c'est un pays qui a été marqué par des drames absolument tragiques tout au long du XXe siècle. Vous avez l'impression que on arrive à surmonter ces drames, on arrive finalement à rire et à danser, à chanter, comme le dit Angélique Kidjo.
Bon, la musique fait partie intégrante, c'est sûr, de la culture arménienne, rituelle, religieuse, ou même elle fait partie de tous les stades de la vie en Arménie, et aussi en diaspora en fait, puisque la diaspora est trois fois plus nombreuse que la population de l'Arménie. Et c'est vrai que oui, on a eu pas mal de problèmes, pas mal de génocides, le joug du soviétisme, tremblement de terre, la guerre actuellement. Donc, je pense que les nouvelles générations maintenant essayent d'aller devant, les musiciens essayent d'aller devant, de pas être bloqués par, enfin, être derrière, voilà, ce passé si lourd à porter. Et je pense que oui, moi je peux citer plein de musiciens qui et d'artistes en général qui arrivent à créer avec ce qu'ils ont notre identité, mais tournée vers le futur, ouverte vers le monde.
On va écouter un de vos musiciens qui joue d'un instrument très ancien dans la musique arménienne.
Oui.
Et vous allez nous en parler un petit peu de cet instrument. C'est le doudouk.
Hein. Oui, il s'agit du doudouk. C'est l'instrument le plus emblématique d'Arménie, un instrument avant
et qui est devenu extraordinairement moderne.
Oui, c'est un instrument avant. Et donc Harutyun, ici, va jouer pour nous.
Respire pas lui.
Oui, ils arrivent à garder la respiration circulaire en fait.
C'est génial,
c'est magnifique. C'est Peter Gabriel qui l'a fait connaître dans la world music. C'est quelqu'un qui est important aussi dans votre carrière.
Oh, moi, Peter, c'est un pote à moi, je l'adore. Moi, je l'appelle l'Africain, l'Anglais africain. En fait, il a vécu aussi au Sénégal et ce qui est important aussi avec des artistes aussi importants que Peter Gabriel, c'est leur approche de la musique et ce que ça veut dire pour eux. Et pour Peter, ça n'a jamais été d'utiliser les Africains pour se faire mousser. Et pour lui, chaque artiste avec lequel il travaille, il les met au même niveau que lui. Et ça, c'est rare à trouver. Parce qu'on part du principe que quand on est Africain, quand on vient de l'Afrique, il y a une certaine forme de musique qu'on doit faire par les autres. On ne se rend pas compte que les musiques qu'on appelle aujourd'hui des musiques modernes, la pop, le rock and roll, le jazz, toutes les musiques qui sont dans le monde ont été influencées profondément par l'Afrique, parce que il y a des millions d'Africains qui ont été déportés de l'Afrique et ils sont partis avec leur musique, ils sont partis avec leur culture. On a beau vouloir faire un lavage de cerveau, quand on a grandi dans une culture, c'est difficile que cette culture ne fasse plus partie de vous. Donc, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a des gens comme Peter Gabriel qui utilisent la musique, justement, comme on disait, pour créer ce pont en disant, moi, la musique que je fais, en gros, c'est peut-être une musique anglaise, mais il y a de l'Afrique dedans.
On va profiter de ce temps pour parler un petit peu de cet album des Talking Heads, parce que quand on l'écoute, vous chantez en anglais, alors on est un petit peu plus loin là de la francophonie, mais finalement on est dans l'esprit du vivre ensemble, justement.
Absolument.
Et c'est aussi un album qui paraît être un petit peu loin à première vue de votre univers. Quand j'ai écouté les reprises, je me suis dit, quand même, c'est culotté.
Ouais, mais moi, quand je suis arrivée en France en 83, ça a été un moment difficile pour moi parce que j'ai été obligée de m'enfuir de mon pays à cause de la dictature communiste. Et le premier trimestre a été très difficile. Et puis l'année qui a suivi aussi a été très difficile. Quand on arrive, quand on vous dit que on partage la même langue, on parle le français, ce qu'on nous apprend sur la France est différent de la réalité sur le terrain. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'étudiants en musique qui parlaient pas bien le français, d'une part. Et quand j'ouvrais ma bouche, je me disais, attends, toi, on n'a pas besoin d'encyclopédie pour te comprendre. Moi, j'étais là, je me disais, mais j'ai appris à l'école la même langue que vous. Des réflexions vraiment bizarres. Et un jour, il y a des copains qui ont dit, on va aller écouter de la musique. Parce que moi, je suis arrivée, j'ai passé de 1972 à 83 jusqu'à ce que je sois partie, aucune musique ne passait plus à la radio. Aucune. Oui. Que de la musique de propagande du matin jusqu'au soir. Donc quand je suis arrivée à Paris, je suis devenue une junkie de musique. Il fallait que j'avais l'impression que le monde, j'ai passé un siècle que je n'étais plus dans le monde. Et toutes les musiques qui passaient, je ne connaissais pas la musique de Bachon, la musique de Higelin, la musique de Nougaro. Non, tout ça c'était passé. Je me suis arrêtée à Edith Piaf. Et c'est un truc de fou. Et quand je suis arrivée, j'ai d'abord passé 2 ans dans une école de musique française. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre Maxime Le Forestier et tout ça. Et moi, dès qu'on me dit, on va aller quelque part, il y a à manger, tu es étudiante, tu y vas parce que la bouffe est gratos, sure, et qu'il y aura de la musique, moi, je suis partante. Donc, je ne connaissais pas tout le monde. Bon, comme on dit en Angleterre, en anglais, donc je suis partie, je suis allée avec eux. Donc, on arrive, et puis, ils avaient une autocassette, et il y avait des cassettes qui passaient. Et tout d'un coup, la chanson Once in a Lifetime de Talking Heads passe. Et tout d'un coup, je me réveille, je suis là. Je commence à danser et tout. Et le mec, il me fait, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas de la musique africaine, ça. Je dis, monsieur, c'est la musique africaine. Il dit, non, c'est trop sophistiqué pour vous, les Africains, c'est du rock and roll. Je dis, ah, d'accord, c'est pas grave, ça n'engage que toi. Et c'est resté. C'est une ritournelle, la ritournelle du refrain qui est restée dans ma tête. Ça me rappelait tellement une chanson traditionnelle de chez moi que c'est resté avec moi. En 97, je vais aux États-Unis. D'abord, avant de m'installer aux États-Unis en 92, j'ai été en tournée là-bas après mon album Le Gozo. Et la directrice artistique de Mango chez Island, je devais jouer à Sotheby's à New York. Juste avant le concert, il arrive, mais complètement, mais je n'ai jamais vu cette nana aussi excitée, parce qu'elle est toujours là, sérieuse, machin, non, pas possible. Et là, complètement déjantée, j'ai dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé, la fumée, quoi? Et puis elle me regarde, Angélique, tu sais ce qui se passe? J'ai dit, mais non, je ne sais pas, mais calme-toi. Elle me dit, une méga star américaine est fan de ta musique et vient. Je dis, ah bon, mais d'accord. Moi, je connais pas. Alors, c'est ma première fois aux États-Unis pour jouer. Et c'était David Byrne.
Et des Talking Heads.
Et on a commencé à parler musique. Brièvement, avant que je monte sur scène, il a commencé à me parler de la musique de l'Afrique de l'Ouest. Je me suis dit, j'ai regardé, toi, t'es américain, vraiment. Et du ton coup, ça m'a donné du courage pour monter sur scène. Je me suis dit, au moins une personne dans la salle va comprendre ce que je fais. Et je m'installe après aux États-Unis, on a travaillé ensemble beaucoup, on a fait des concerts ensemble avec Philippe Glass et tout. On est devenus des potes. Et avec le management, il y a un truc dans ma tête, mais je sais pas d'où ça vient. J'ai envie de faire ce truc, je ne sais pas ce que j'ai. Et puis il dit, chante le truc. Je dis, non, 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 non. Il dit, mais c'est Talking Heads. Et j'écoute tout l'album. Et là, ça a été un moment d'arrêt. Je me suis assise, je me suis dit, je vais écouter tout l'album. Et chaque album, pour moi, vu les proverbes, comment on les utilise dans notre culture, les gens me disaient, ces paroles sont absurdes, ça n'a pas de sens du tout. Moi, ça avait un sens clair dans ma tête. Et à cet instant, j'ai décidé que la musique traditionnelle de chez moi doit répondre à cette musique. Et j'ai fait des recherches plus tard, je me suis rendu compte que la réponse était organiquement là.
Sévana, vous, comment est-ce que vous êtes venue à écoutez, qu'est-ce que vous avez d'abord écouté? Parce que vous êtes née en France.
Je suis née en France, mes parents sont issus de la diaspora. Ma mère a fui l'Iran, mon père a fui le Liban. Enfin, on est tous un peu...
venus
des quatre coins du monde. Donc, ils se sont retrouvés à Paris, après révolution islamique et la guerre au Liban. Et du coup, eux, ils avaient déjà leur bagage. Leurs parents, mes grands-parents viennent chacune d'une région. Ils ont chacune leur culture culinaire, musicale, leur dialecte, etc. Du coup, moi, j'ai grandi en France, en région parisienne, comme dirait Aznavour, 100% française, 100% arménienne. J'écoutais de la musique arménienne dès mon plus jeune âge, mais aussi ce qu'on écoute à mon âge. Je sais pas, du rap, de la chanson française, tout ce qui s'écoute. J'avais mon cursus classique, donc j'écoute beaucoup de musique classique aussi. Moi, je mets pas de tag si c'est cool, si j'aime bien le style. Ça me donne envie, ça m'inspire pour faire de la musique. Ça m'inspire pour créer, voilà.
Born Under Punches, wow. Un extrait de votre album, de votre dernier album, Angélique.
Born Under Punches.
Merci beaucoup. Merci à Angélique Kidjo et Sévana Tchakerian du Metz Bazar, Jean-Pierre Monza à la rédaction en chef et Boris Vichit à la réalisation. RFI à Erevan, nous serons en direct du sommet de la francophonie demain, jeudi, à partir de 6h15 temps universel, 10h15 à Erevan.